Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Sfez. Elle est psychologue clinicienne, autrice de deux ouvrages et anime notamment des cercles de femmes. Alors avec Camille, on revient sur son parcours et ce chemin qui l'a mené à sortir il y a peu son deuxième livre, Vulnérable, et accompagner des hommes et des femmes, enfin surtout des femmes, hein, vous le verrez, vers une vie meilleure. On aborde les livres qu'elle a écrits, avec notamment La puissance du féminin, qui a été un très beau succès, et on parle justement de cette puissance des femmes. Et enfin, on décortique aussi le thème de la vulnérabilité. Un échange hyper intéressant, qui questionne et fait réfléchir tout ce que j'aime. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Camille.
Salut Théo.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bah, merci à toi.
Alors pour le coup, nous sommes en visio.
Oui.
Vu le contexte. Mais en tout cas, je suis très contente de te voir et de te rencontrer. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui. Alors moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaille en tant que psychologue en libéral. Je travaille aussi en tant que formatrice dans les entreprises. Je sais que toi aussi, tu formes sur la prise de parole. C'est aussi le genre de sujet de formation que j'anime. Et puis, je travaille aussi dans des espaces de développement personnel, en particulier pour les femmes, où je propose des cercles de parole, des cercles de femmes, et puis des rituels, des moyens d'expression, que ce soit par le dessin, par la danse, par le chant. Voilà. Donc ça, c'est le principal de mes activités. Et puis, je suis aussi l'autrice de deux livres, La puissance du féminin, qui est sorti en 2018, et Vulnérable, qui est sorti au mois de septembre.
Yes, on va revenir sur tout ça. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Je sais qu'à une époque de ma vie, je voulais être mécène. C'était pas toute petite, mais j'étais passionnée de culture, d'art, etc. Ouais. Je crois que j'imaginais pas quand j'étais petite que j'animerais des cercles de femmes ou que je travaillerais en tant que psychologue. Je peux pas dire que c'était mon souhait depuis toujours, mais je me souviens même plus, tu vois, c'est terrible. Je sais plus ce que je voulais faire quand j'étais petite.
C'est pas terrible, ça va, mais c'était au cas où. Parce que parfois, on a déjà une idée en tête et au final, on va jusqu'au bout, c'est ça qui est rigolo. au niveau de tes études, alors c'est marrant, j'ai regardé un peu tout ça, bien évidemment. Mais donc, tu as commencé par l'ESSEC.
Oui, c'est ça.
Pourquoi avoir opté pour une formation commerce/management, j'ai envie de dire?
Eh bien, en fait, je pense que c'était justement pour ne pas choisir. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment le profil de la bonne élève qui veut garder les portes le plus ouvertes possible. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est que dans ma famille, donc moi, je suis l'aînée.
Oui.
Mais mon père a fait l'ESSEC et mes deux plus jeunes sœurs aussi ont fait l'ESSEC. Donc il y a, quand même un petit...
Full ESSEC dans la famille.
Voilà, il y a une petite pression familiale quand même pour réussir cette école. Sachant qu'une de mes sœurs est devenue designer après, donc comme moi, elle a complètement bifurqué, tu vois.
Okay.
Mais bon, voilà, je pense que dans la famille, il y avait quand même une petite attente à ce qu'on fasse ce parcours assez élitiste et en même temps, ambitieux, qui garde plein de portes ouvertes. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée en école et j'étais... Je me sentais vraiment en décalage par rapport aux camarades de promo. Je me sentais pas du tout à ma place en fait dans le monde de l'entreprise. Voilà, les collègues, les horaires, l'ambition, c'était vraiment des choses avec lesquelles je me reconnaissais pas. Et du coup, quand j'ai fini mon école, j'ai décidé de reprendre mes études en fait juste après. Et je suis, du coup, j'ai fait la fac de psycho pendant 3 ans. Je suis rentrée avec une équivalence. Ouais. Et voilà. Et du coup, 3 ans après, je suis devenue psychologue.
Ok. Mais ça me C'est long, 5 ans d'études. Alors, pour le coup, j'ai aussi fait une école de commerce management.
Ouais.
Et quand tu te dis que t'es pas... ça te convient pas ou que t'es pas au bon endroit. Enfin, je sais pas si, oui. Enfin, si tu l'as dit que c'était déjà le cas, tu te sentais un peu en décalage.
Ouais. En fait, finalement, quand je suis arrivée à l'ESSEC, je pense que j'étais vraiment en dépression. Enfin, les années de prépa, ça a été quand même assez dur, surtout la deuxième année. Et du coup, en arrivant à l'ESSEC, ça a été un temps pour moi vraiment pour faire un travail thérapeutique, découvrir beaucoup de choses en termes de développement personnel. Vraiment, en fait, cette école, en tout cas, enfin, je sais pas comment ça marche dans d'autres écoles, mais c'est souvent, enfin, en tout cas, c'était difficile d'y rentrer, mais après, c'était assez facile, on va dire, les cours. Donc, en fait, j'avoue que j'y allais assez peu et ça m'a laissé beaucoup de temps pour faire autre chose. Mais très vite, j'ai senti que, voilà, que c'était pas ma place et finalement, enfin, que c'était pas ma place. En tout cas, que j'avais pas envie de me faire ma place dans cet univers. Mais ouais, j'ai surtout passé mes années d'école. Bah, l'ESSEC, c'est à Cergy, mais j'étais pas sur le campus de Cergy, j'étais à Paris, voilà, pour faire mes trucs à moi, quoi. Donc, ça m'a permis de découvrir d'autres choses.
Et justement, ouais, c'était ma question. À quel moment, t'as pour la première fois, touché du doigt, on va dire, les thérapies? Enfin, à quel moment ce milieu-là est venu à toi ou t'es allé vers ce milieu-là, en fait?
Eh ben, vraiment, en arrivant en école, comme j'allais vraiment mal, je suis allée voir un psy, en fait. Et je me souviens qu'avec lui, peut-être au bout d'un an ou deux, je ne sais plus très bien, il m'a proposé un week-end de développement personnel qu'il organisait. Ouais. Et ce week-end-là, avec des outils qui ressemblent un peu à la Gestalt, je dirais, je ne sais pas si ça parle à certains auditeurs.
Mais précise au cas où, parce que moi, ça on va préciser pas mal de choses dans ces épisodes pour que tout le monde comprenne.
La Gestalt, en fait, c'est un outil qu'on peut utiliser en individuel ou en groupe. Mais moi, là, ce week-end-là, je l'ai vécu en groupe où finalement, on représentait sur un espace symbolique une problématique, je dirais, une dynamique intérieure, une problématique psychique. Et on l'a transformée dans cet espace symbolique, donc avec des personnes qui étaient avec moi, qui jouaient des rôles dans cette histoire, hein, à qui je donnais des messages, et puis voilà. Et en fait, ce week-end, il a été hyper fort pour moi, et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, j'aimerais faire ce genre de choses, j'aimerais être au service de l'autre et de pouvoir proposer ce genre d'espace. Donc finalement, c'est pas la Gestalt vers laquelle je me suis tournée plus tard, mais je me souviens très bien, un moment particulier, en plus à la fin du stage, où je voyais cette femme qui était là, qui nous accompagnait, et je me disais, mais en fait, je veux faire ça.
Ok, ça a été l'élément déclencheur. Ah, génial. Ouais, génial. Et donc, tu dis, après, effectivement, tu reprends tes études. Alors, t'es psychodrame psychanalyste, c'est ça, individuel. Et après, un master en psychopathologie de l'adulte.
Oui, le psychodrame, c'était un peu... Non, tu t'es pas trompé. le psychodrame, c'était un peu en parallèle de ma formation. Je dirais c'était comme des stages que je faisais.
Ok.
Le psychodrame, donc c'est finalement une forme de mise en scène thérapeutique. Ouais. Mais j'ai fait surtout la fac, la fac de psycho Paris 7. Donc, je suis rentrée en licence. Et j'ai fait ces 3 ans de fac. Un parcours assez classique, clinique, où j'ai fait tous mes stages dans des institutions psychiatriques. Enfin, c'est vrai que... Enfin, institutions psychiatriques et institutions pour enfants aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant et j'ai adoré comprendre, en fait, la pathologie. Et en même temps, je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas forcément envie de travailler en institution.
Pourquoi ?
Parce que c'est un peu démotivant ou un peu démoralisant de savoir que... On est là vraiment en soutien pour des gens qui vont très mal, mais qu'on ne les aide pas vraiment à aller mieux, d'une certaine manière. Enfin, quand on est à la fin de mon... Enfin, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé dans une maison de redressement pour ados, et puis dans un internat pour enfants autistes. Et dans ces 2 environnements, en fait, je me sentais vraiment complètement dépassée. Enfin, je pense aussi parce que j'étais jeune et que j'étais, pas très bien... bien formée, mais avec aucune expérience. Mais c'est vrai que c'était des environnements où... Mais je pense que le rôle du psychologue est important dans l'institution, important pour mettre du sens, pour soutenir les équipes, etc. Mais que dans la relation avec les patients, je me sentais vraiment complètement démunie, en fait. Et du coup, assez vite, je me suis installée en libéral pour recevoir des gens qui vont pas très bien, mais globalement qui ont pas de problèmes psychiatriques. Donc, des problématiques qui sont plus faciles à accompagner pour moi, en tout cas.
Ouais, parce que, alors juste, tu peux nous expliquer aussi la différence entre un problème psychiatrique et ceux qui n'en ont pas, pour le coup, parce que psychiatrique, c'est plus costaud, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Ouais, c'est ça, psychiatrique, ça veut dire, par exemple, l'autisme, ou par exemple, la schizophrénie, ou par exemple, des gens qui seraient dans des dépressions sévères, dans de la mélancolie, enfin, je dirais dans des problématiques qu'on ne peut pas juste traiter par une thérapie, par la parole, qui ont besoin de traitements, de neuroleptiques. Et donc, évidemment, je dirais, en fait, je pense, moi, je me souviens quand j'ai voulu, quand j'ai repris mes études de psycho, je disais que, en fait, je faisais ça, j'aurais pas voulu être infirmière, c'était pas le côté soin, vraiment soin du corps, etc. Mais par contre, j'aurais bien aimé être prêtre. En fait, je pense que j'avais envie, bon, ça pour le coup, je le disais pas quand j'étais petite, mais c'était plutôt à 20 ans, mais 25 ans. Mais oui, dans le côté mettre du sens en fait, mettre du sens sur ce qui nous arrive, arriver à changer de perspective, à s'élever, sortir d'une position de victime pour comprendre le sens de ce qu'on vit et des épreuves, etc. Je pense que c'était déjà ça au départ qui m'animait et c'est encore ça aujourd'hui qui m'intéresse en fait.
Ok, génial, c'est rigolo. Côté prêtre, je ne m'y attendais pas.
Bah oui, voilà, peut-être qu'un jour je deviendrai prêtre, je ne sais pas.
Who knows? Ok, donc assez naturellement, en 2011, tu te mets à ton compte?
Oui, tu dis en 2011 parce que tu es vachement mieux renseignée que moi. Je ne sais pas, sûrement, ça doit être à ce moment-là. Oui, c'est
Écoute,
deux ans
c'est
après.
Les infos que j'ai, effectivement.
C'est ça, exactement, deux ans après le diplôme. Oui, je me mets à mon compte, donc je m'installe en libéral. J'ai assez peu de patients à ce moment-là parce que c'est en même temps une période où j'ai mes enfants. J'ai deux garçons que j'ai eu assez rapprochés. Ils ont 18 mois d'écart. Ouais. Donc, j'ai été pas mal enceinte, j'ai pas mal allaité. Enfin, voilà, c'est une période où finalement, je bosse un petit peu en tant que psy, mais pas tant que ça. Et puis, quand mon second a deux ans et demi, en fait, je commence un métier de formatrice. C'est là où je commence à bosser pour un organisme de formation. Et du coup, en fait, je me dédie à ça. Je dirais, je ne fais plus que ça. Je laisse de côté un peu la thérapie. Et j'ai travaillé donc, pour un relativement gros organisme de formation. Là, depuis, du coup, 6-7 ans. Ouais, c'est ça, ça colle. Voilà, sur plein de problématiques de développement personnel, en fait.
Ouais. C'est ça. Et on reviendra aussi sur tout ça parce que il y a plein de développement personnel. On va apprendre plein de trucs. C'est génial. J'ai hâte. et aussi, alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire de manière très chronologique. Alors, ça m'arrive parfois. En 2011, tu vas en Angleterre et tu rencontres les tentes rouges. Alors, je vais pas trop vite parce que voilà, en termes de timing, c'est à peu près ça. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et ce que ça a donné par la suite, en fait?
Oui, c'est ça. Donc, exactement. Je fais cette rencontre. Non, c'était pas 2011. C'était plus tard, c'était 2015. C'était 2005. Oui, c'est ça, 2005-2008. C'est moi qui me dis 2015. Okay. Oui, en 2011, je crée la Tente Rouge de Paris. Mais en fait, ça faisait déjà quelques années que j'avais été en Angleterre dans des stages de développement personnel. En fait, je rencontre ces femmes. Donc, ce qui me touche, moi, c'est ces femmes qui sont à la recherche de leur puissance. Et qui, justement, veulent sortir d'une posture de victime ou d'une sensation d'enfermement dans leur vie, de ne pas se réaliser, etc. Et qui, voilà, ont le courage de regarder leurs ombres en face, de vraiment ce travail d'empowerment, quoi.
Mais alors, tu dis ça touche, mais ça t'a toujours touché? Ou à quel moment tu t'es dit, en fait, parce que, et on verra par la suite, et j'ai aussi envie de comprendre, moi, la logique de dire, bon, bah, je vais écrire des bouquins pour aider encore plus de monde dans l'idée, et à quel moment tu changes d'échelle aussi. Mais surtout, j'ai envie de comprendre intérieurement comment ça s'est passé chez toi. Est-ce que c'est, et c'est peut-être ça, et c'est en interne, tu t'es dit, en fait, moi, j'ai envie de comprendre ma propre puissance. À partir du moment où tu as compris ça, tu as envie d'aider les autres à comprendre la leur. Et ça se fait à quel moment pour le coup?
En fait, je pense que moi, j'ai été élevée dans une famille un peu caricaturale, c'est-à-dire qu'en même temps, d'un côté, le message que je recevais, c'était les secs, l'ambition, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. En gros, les messages qu'on reçoit à les secs, c'est un peu tu peux diriger le monde, quoi. Enfin, avec aucun manque d'humilité. Mais il y a un peu quelque chose comme ça, le discours qu'on me vendait. Et en même temps, moi, je sentais que pour adhérer à ce discours ou pour correspondre à ce discours, il fallait que je me coupe de toute ma sensibilité. Donc ça, c'était une problématique pour moi. Et puis, chez moi, à la maison, j'avais des parents qui me disaient la même chose. Et en même temps, j'avais un père très dans la réussite sociale, dans le côté démonstratif de sa réussite, et une mère plutôt en retrait, qui travaillait pas. Donc moi, j'avais un modèle parental masculin-féminin assez cliché, en fait, assez rétrograde, je dirais, enfin. Donc, je sentais bien qu'il y avait une question pour moi, et c'est vraiment ça ce qui m'a fait partir en Angleterre, c'est-à-dire, quelle puissance j'ai en tant que femme? Est-ce que ma puissance, c'est forcément adhérer au modèle masculin qu'on me vend dans mon école de commerce, ambitieux, linéaire, dans la performance, un peu dans la compétition qui écrase tout le monde, ou est-ce que je peux, il existe une autre forme de puissance qui serait plus en lien avec mon genre féminin, hein, mon identité de femme, qui serait plus en lien avec ma sensibilité aussi. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là pour moi qui était à explorer. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je suis partie en Angleterre et c'est vraiment ce que j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes qui étaient vachement en connexion avec leur corps, avec leur cycle, qui vivaient des expériences de maternité, qui étaient vraiment des expériences de puissance pour elles, d'accouchement. Et donc, en fait, tout ça, finalement, ça m'a vraiment reconnectée à mon corps de femme que j'avais jusqu'à mes 20 ans, du coup, complètement mis de côté. Enfin, complètement, je veux dire,
t'étais pas forcément à l'écoute ou connecté avec on peut faire cette connexion esprit-corps.
Exactement. Et du coup, quand j'ai commencé à rencontrer ces femmes-là, donc notamment, là, c'était en 2008, une femme qui a créé un mouvement de tente rouge aux États-Unis, Alyssa Starkweather, qui a créé le Red Tent Temple Movement. En fait, du coup, il y avait dans ce stage énormément de femmes qui avaient créé des tentes rouges, donc surtout en Angleterre. Et les tentes rouges, ce sont des espaces où les femmes se retrouvent une fois par mois pour prendre soin d'elles, pour se ressourcer. En fait, un espace où on se débarrasse de tous ces masques et on peut être soi-même, on peut partager notre vulnérabilité, s'écouter, se sentir accueilli. Et moi, en fait, quand j'ai découvert ça, je connaissais déjà les cercles de femmes, du coup, depuis plusieurs années. J'en co-animais, je faisais partie de cercles mixtes aussi. Enfin, j'avais un peu toute cette culture des cercles. Et en même temps, j'avais pas le leadership là-dedans. Et j'en avais marre, en fait, de fonctionner avec les règles des autres, un peu d'une certaine manière. J'ai un côté un peu tyrannique, je crois, parfois. Donc, j'avais envie, de créer mon espace, mon cercle. Et du coup, j'ai créé en 2011 la Tente Rouge de Paris.
Ouais. Ok. Génial. Et donc, où c'est littéralement, alors je ne sais pas si c'est un drap rouge ou une tente rouge, mais t'as littéralement...
Non, en fait,
non,
c'est
y a pas...
un peu
okay,
le...
Ok, d'accord. Ah, je croyais, j'ai vu des photos avec...
Il y a des femmes qui font des vraies tentes rouges, vraiment, avec des vrais draps. On a l'impression de rentrer sous la tente. Je pense que c'est vraiment une expérience magnifique. Enfin, je suis rentrée déjà sous une tente rouge comme ça. Nous, au départ, donc je dis que c'était mon espace, mais très vite, en fait, on a été deux avec mon amie Anne Derieux, qui est sophrologue et formatrice aussi aujourd'hui. On a créé cet espace toutes les deux et nous ce qu'on faisait c'est qu'on mettait du tissu rouge par terre, des coussins rouges, enfin il y avait comme ça le rouge qui était présent, mais c'était pas sous une tente. Et puis au fur et à mesure ça s'est vraiment simplifié, c'est-à-dire que tout ce décorum, j'en avais eu besoin à un moment, je pense que c'était rassurant pour moi, mais finalement je m'en suis vite détachée, quoi.
Ouais. Et alors, pourquoi le rouge ? Alors, même sur pas mal de tes photos, t'as souvent un pull rouge.
C'était la photo de mon livre. J'avoue qu'en fait, j'ai pas énormément de photos, donc c'est un peu toujours la même. En fait, le rouge, en tout cas, le rouge de la tente rouge, c'est le rouge du sang menstruel. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tente rouge, les femmes, elles se réunissent... en fait, ce mot tente rouge, il fait... référence à une origine historique qu'on retrouve dans énormément de fouilles archéologiques, notamment autour du bassin méditerranéen. On s'est rendu compte que les femmes, quand elles avaient leurs règles, se retrouvaient dans des huttes de menstruation, donc des espaces à part, où on a retrouvé par exemple en Turquie des lieux comme ça qui sont peints du sol au plafond d'ocre rouge, enfin voilà, des lieux aussi où les femmes accouchaient, où les femmes passaient les 40 premiers jours de leur vie, enfin de la naissance de leur bébé avec leur bébé, voilà, vraiment un espace en fait dédié aux femmes. Et c'est quelque chose qui a perduré dans certaines cultures, comme chez les Amérindiennes par exemple, qui ont toujours cette culture de la Moon Lodge, où on se retrouve entre femmes. Alors aujourd'hui, évidemment, dans les tentes rouges, on ne se retrouve pas quand on a nos règles, parce qu'on ne les a pas toutes en même temps. Mais on se retrouve au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune noire dans le ciel. Et en fait, mythiquement, symboliquement, c'est le moment où les femmes saignent. Parce qu'en fait, bon, ça c'est petite info, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais quand on n'est pas soumis à la lumière artificielle, l'ovulation... est en lien, je dirais, avec la quantité de lumière qu'on reçoit, et notamment, du coup, qu'on reçoit la nuit. Donc, en fait, en dehors de toute civilisation et lumière artificielle, les femmes ovulent à la pleine lune. En tout cas, c'est un rythme classique. Donc, elles ont leurs règles à la nouvelle lune. Et donc, cette lune noire dans le ciel, elle symbolise aussi l'introspection et ça correspond vraiment à cette étape du cycle menstruel des femmes où, en fait, c'est intéressant de ralentir, de s'écouter, de se tourner vers soi, de plus être dans cette posture de donner, d'ouverture, mais vraiment de se donner à soi-même, quoi. Donc c'est aussi ce qu'on fait en fait dans la tente rouge. On s'écoute, on plonge dans notre intériorité, et c'est voilà pour ça que c'est en lien avec ce cycle lunaire et aussi avec cette couleur rouge du sang.
Ouais, complètement. Ok, merci pour toutes ces explications. et alors, en parallèle de tout ça, pour le coup, tu as fait plusieurs formations. Oui. Donc, tu parlais d'art thérapie tout à l'heure. Tu as fait des formations alors plus ou moins longues, je ne vais pas énumérer à chaque fois, mais en co-développement, sur la communication non violente. J'en oublie sûrement. C'est en gestion du stress aussi. Enfin bon, tu as fait plusieurs choses. Pourquoi vouloir faire tout ça?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai toujours, je crois, j'ai quand même toujours besoin d'apprendre. Peut-être fondamentalement parce que j'ai du mal à me faire confiance. Donc, il y a une partie de moi qui est rassurée par le fait de me dire je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais me former, etc. J'ai assez vite la sensation, je vais pas dire de végéter, mais en tout cas de pas avancer quand je suis pas dans ces démarches-là d'apprentissage ou de développement ou de travail intérieur. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette curiosité. Et puis, je me suis aussi beaucoup cherchée professionnellement. Enfin, là, je raconte les choses, ça paraît assez clair. Mais en fait, quand même, il y a eu toute cette période où je me disais, psy, formation, donc thérapie, entreprise. Enfin, tu vois, par exemple, cette formation de co-développement. Enfin, j'ai fait une petite, une initiation. Mais c'était aussi, ce travail du groupe, du cercle. Comme je pouvais le vivre dans les cercles de femmes, je me disais, est-ce que j'aurais envie d'accompagner ça en entreprise? Bon, je pense que de plus en plus, mon chemin, clairement, il n'est pas en entreprise. Ou en tout cas, je crois que je suis vraiment... ce qui m'intéresse, c'est d'être du côté du soin.
Alors, est-ce qu'au final, le soin, tu le fais pas en entreprise aussi?
En fait, quand je fais mes formations, je vois vraiment que je peux apporter beaucoup de choses aux gens, souvent parce qu'en plus, les gens, ils se disent juste, c'est cool, je vais pas bosser pendant 2 jours. ils attendent pas grand-chose de la formation. Enfin, pas toujours, mais souvent, ils sont quand même... Et donc, du coup, ils sont surpris et heureusement surpris de ce qui se passe parce que c'est vrai que... Alors après, ça dépend des groupes. Il y a des groupes où c'est plus facile que d'autres. Mais avec certains groupes, j'ai vraiment l'impression de faire du travail de développement personnel. Enfin, vraiment, qu'on peut aller loin. Mais quand même, la plupart du temps, les gens veulent pas trop se remettre en question, mais surtout avoir des outils concrets pour pouvoir changer les choses. Et d'une certaine manière, ça marche. C'est-à-dire que, bien sûr, si j'ai plus d'outils, je peux changer ma manière de communiquer, de gérer mes émotions, etc. Mais fondamentalement, pour se transformer, il faut accepter de changer. Il faut aller regarder ses failles. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, en tout cas, clairement pas en formation. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment le faire sur son lieu de travail. Enfin, je pense que c'est pas forcément le lieu, quoi.
Ouais, complètement. Puis en 2 jours aussi.
C'est sûr que c'est un petit challenge.
Profondément, ça paraît, ça paraît compliqué. Effectivement, après, parce qu'après, en 2015, mais bon, en fait, maintenant, je mélange les dates, donc c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas que je mélange, mais on a un peu arrêté cette chronologie, on va dire. Mais donc, t'es formatrice chez Dosendi. Et donc là, t'interviens, pour le coup, toujours sur l'efficacité professionnelle en gestion de temps, communication, assertivité, image de soi, gestion des émotions, tout ça, coopération positive aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire tout ça sur, j'ai envie de dire, sur les entreprises, sur les gens aussi? Alors, je me rends compte que ma question est hyper vague, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Je vais essayer de la formuler pour qu'elle soit plus claire. À quel moment, même si tu l'as peut-être déjà un petit peu dit, mais parce que, alors pour le coup, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis passé par la thérapie aussi, fait d'abord de la PNL, après de la Gelstat pour le coup. Et ma sœur qui maintenant est formatrice en PNL et coach aussi. Donc ça, c'est un univers qui tourne autour de moi assez. Et en fait, alors toi déjà, j'imagine qu'en faisant toutes ces formations, tu évolues constamment déjà, forcément. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent et qui ont pas encore en fait franchi le pas. Ouais. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ferait beaucoup de bien.
Oui.
Et si tu fais ce métier-là, c'est que t'es j'imagine plutôt d'accord,
oui.
Qui ça ferait beaucoup de bien de faire de la thérapie, quelle qu'elle soit, mais soit qui n'ose pas, soit se dit c'est pas pour moi, soit, et on arrivera plus tard sur la vulnérabilité, soit bah en fait j'ai pas besoin de ça.
Ouais, moi j'ai été vachement surprise en fait ces dernières années. C'est-à-dire que ce métier de formatrice, au départ, quand j'ai commencé, je me disais vraiment, ce sera un boulot alimentaire, voilà, c'est pas très intéressant. Mmh. Et je pense que j'avais beaucoup d'a priori sur le monde de l'entreprise, justement, en me disant, de toute façon, les gens d'entreprise, ils sont pas ouverts. Et en fait, j'ai découvert des gens tellement en souffrance qui allaient chercher de leur côté déjà, du yoga, de la sophrologie, enfin, qui étaient vraiment dans... Pas tous, évidemment, pas tous, mais je veux dire, j'ai été étonnée en fait du nombre de personnes qui étaient en recherche de bien-être. Et en même temps, c'est pas très étonnant vu la pression aussi que les salariés subissent aujourd'hui dans les entreprises. Enfin, c'est tellement difficile que, forcément, ça pousse à s'interroger, à revenir à soi, à se poser des questions, à aller demander de l'aide. Et je crois que, en tout cas, ça, c'est clairement une bonne nouvelle pour moi. ça m'a fait tomber vraiment cette barrière-là. En fait, je pense que fondamentalement, pour commencer un travail thérapeutique, on a besoin d'aller mal, en fait. C'est vrai que quand on va bien... On peut le faire par curiosité, on peut avoir envie de tester des trucs, mais pour avoir vraiment envie de changer, en fait, ça demande du courage de changer, ça demande.
Ce que j'allais dire, parce que accepter qu'on va mal, c'est.
Bah ouais.
C'est énorme.
Bah oui, c'est ça. Surtout dans une société où en fait on nous dit, si tu vas pas bien, c'est que tu fais pas assez d'efforts. Il faut que tu aies plus de pensées positives. Il faut que tu te prennes plus sur toi. Enfin voilà, il y a tout un discours aussi qui nous ferait croire que en fait, si on faisait plus d'efforts, on pourrait aller bien. Donc c'est difficile d'avouer qu'on va pas bien. Et puis même quand on sait qu'on va pas bien, c'est pas facile de changer, parce que quitter ces modes de fonctionnement, ça fait peur. Ça veut dire aussi que nos relations vont changer, qu'on va plus accepter les mêmes choses, qu'on va devoir négocier un rythme différent, une logistique différente, changer de boulot, enfin je sais pas, mais ça implique plein de choses en fait de changer intérieurement. Et donc je pense qu'en fait, soyons honnêtes, c'est vrai que on peut changer quand on est un peu poussé par la vie. Parce qu'on a fait un burn-out, parce qu'on est tombé malade, parce que on a 40 ans et qu'on n'est toujours pas en couple, parce que on n'arrive pas à avoir d'enfants, parce que des choses dans notre vie qui font que en fait le problème on peut plus le résoudre seul et donc du coup on se met en route quoi.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va vers la thérapie, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ça.
Si, si, je suis plutôt d'accord. Alors moi, heureusement, j'ai ma sœur qui m'a poussé à y aller aussi. C'est bien aussi parfois d'être entouré par des gens qui l'ont déjà fait et qui trouvent les mots pour te convaincre à y aller. On va parler un peu de tes livres, si ça te va.
Ouais, ouais.
T'as sorti ton premier livre, La puissance du féminin, en 2018, comme tu disais tout à l'heure, avec écrit en dessous « Libre, sereine et sacrée, renouée avec vos forces profondes ». Pourquoi t'as voulu écrire un livre et comment on écrit un livre, déjà pour commencer?
C'était une commande, ce livre. C'est-à-dire que j'ai une éditrice qui est venue me voir en me disant « Est-ce que vous auriez envie d'écrire sur ce sujet ?» Et c'était pas la première qui me proposait. Et moi, je me disais, non, mais j'ai rien à dire, je sais pas. Et donc, cette femme, elle a été vraiment super, Pascal Senk. Elle est venue, en fait, à mes cercles. Elle est venue plusieurs fois. Et donc, elle a insisté pour que je le fasse. Et puis, elle m'a valorisée aussi en me disant, mais si, mais est-ce que t'as pas envie de transmettre tout ce que t'as découvert? Et c'était vraiment ça. Qui m'a donné envie d'écrire, c'est-à-dire de me dire, en fait, c'est vrai que moi, ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'étais sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme, c'est quoi la puissance du féminin. C'était des questions, enfin vraiment une question personnelle hein, pour moi. Et du coup, que je vivais aussi dans les cercles, je voyais beaucoup de femmes qui se posaient cette question, j'avais fait un certain nombre de, enfin un petit parcours en tout cas dans ce monde-là, et donc j'avais envie de transmettre au plus grand nombre ce chemin que j'avais fait ou ce chemin que je voyais les autres faire, pour donner des clés en fait, vraiment que ce soit quelque chose de qui rende accessible cette recherche de cette question, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme puissante?
Ouais. Et alors, ça veut dire quoi d'être une femme puissante?
Moi, je pense qu'il y a autant de définitions que de femmes, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, je vais peut-être juste parler des miennes. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment compris, c'est que cette histoire de puissance, pour moi, en tant que femme, elle m'a longtemps fait peur parce que la puissance, je l'ai longtemps associée à la domination. J'avais l'impression de subir en tant que femme. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société, bon, même si les choses changent, et heureusement, mais peut-être moi, quand j'ai commencé mon chemin, donc en 2005, c'était quand même il y a une quinzaine d'années, c'est ce que je te disais, j'avais l'impression que pour être du côté des puissants, il fallait que je gomme toute ma féminité, en fait. Ou alors que j'utilise ma féminité comme une arme, mais c'était de la même manière, dans un truc très yang. Et donc, j'ai compris, en fait, sur ce chemin, que la puissance, c'était pas forcément le pouvoir de la domination. C'était plutôt cette capacité à faire, à être en accord avec qui je suis, à être reliée à quelque chose de plus grand, et que du coup, ma puissance, elle venait d'un espace intérieur plutôt que ne s'exercer dans la relation pour contraindre l'autre, quoi. Donc ça a été déjà une première étape pour m'autoriser cette puissance. Et puis, sur mon chemin, il y a eu aussi ces définitions-là et ces... Je dirais ces lectures, ces rencontres, mais cette définition qui me plaît beaucoup de Christiane Singer, qui dit le féminin, c'est notre capacité à nous faire terre d'accueil pour la musique du monde, c'est-à-dire à nous laisser traverser, en fait, à livrer passage à quelque chose de plus grand. Et donc là, je suis plus dans un truc de la volonté, tu vois, qui tiendrait en force ou qui serait, mais au contraire dans l'accueil de justement de ma vulnérabilité, de ma fragilité, de mon imperfection. Bah, dans cet accueil là, il y a quelque chose, en fait, qui peut passer, qui va me donner ma puissance, en fait, qui va me donner cette force qui n'est pas la force de la tension.
Ouais.
Voilà, donc ma définition, ce serait ça aujourd'hui.
Ça marche. Et alors, pour le coup, je vais te poser une question, mais qui n'est pas de moi, qui est de Léa Salamé, parce que elle a pour le coup un podcast et elle a écrit des livres derrière qui s'appelle Femme puissante et que je trouve génial. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es déjà, toi, sentie puissante?
Alors, clairement, tu vois, je parlais des accouchements tout à l'heure. C'est un peu facile de dire ça, mais en même temps, clairement... pour mes accouchements, c'est vraiment des moments où je me suis sentie puissante. Enfin, en tout cas, j'ai senti que je pouvais pas négocier avec ce qui était en train de se passer. C'était pas une fausse puissance, quoi. Et en même temps, quand j'ai vraiment mis au monde mes enfants toute seule chez moi, en tout cas mon deuxième, il est né à la maison. Je ne doutais pas de la puissance de mon corps et aussi de ma capacité, là aussi, à livrer passage, en fait, à me laisser traverser, à faire confiance à mon bébé, à faire confiance à ma vie. Après, cette sensation de puissance, je la sens aussi beaucoup quand j'anime des cercles de femmes et quand je suis dans cette posture où je sens bien que c'est pas que moi qui agis, qui œuvre dans cet espace. Moi, je suis là pour ouvrir l'espace, mais je me sens vraiment soutenue par une force plus grande. On pourrait dire, je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, mais quelque chose de l'ordre de l'invisible ou du mystère qui passe à travers moi, tu vois. Et il y a des moments où je me sens, je peux me sentir par exemple complètement en communion avec l'espace dans lequel je suis, avec la nature autour, avec les éléments. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être immense, quoi.
Génial. Et alors, pour le coup, alors je repense encore à ce podcast, pardon, mais je trouve qu'il est parlant et ça, on est en plein dans le sujet. C'est vrai que Léa pose souvent cette question aux femmes et ce qu'elle dit, c'est que souvent, tu vas poser cette question à un homme, il va te répondre que oui, il est puissant. Une femme, elle aura du mal à y répondre. Est-ce que toi, ayant accompagné beaucoup de femmes, et puis des hommes aussi, puisqu'en entreprise, tu as accompagné des hommes, t'arrives à expliquer cette différence de réponse? Comment tu l'expliques?
Je crois qu'il y a vraiment... en fait, quand même, pendant des milliers d'années, la puissance, elle était du côté des hommes. Et la puissance, c'est quelque chose... dont les femmes ont peur, enfin ont eu peur, je veux dire, pendant des milliers d'années, parce que la puissance de l'homme, c'était la puissance de pouvoir asservir les femmes, de les maltraiter, de les abuser, de les vendre et de les acheter, enfin je veux dire, donc en fait, je pense qu'en tout cas, un début de réponse, c'est de pas faire l'économie de cet héritage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, en tout cas, quand j'étais jeune adulte, je voyais autour de moi des femmes qui se posaient pas la question d'être une femme, parce qu'on pourrait croire que ça ne nous touche pas. En fait, je pense que si on ne commence pas à se poser la question de cet héritage du genre, on pourrait se faire croire que ça n'a pas d'importance. Alors qu'en fait, je pense qu'il en a énormément et qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire en tant que femme de cette domination-là, parce que nous, on a quand même été longtemps du mauvais côté. Et même si on l'a pas... Enfin, je veux dire, là, quand je dis ça, c'est même si moi, je l'ai pas vécu intérieurement, mais juste l'héritage, en fait. Bah, tout simplement, quand on regarde nos mères, nos grand-mères, on n'a pas tellement de modèles de femmes puissantes. Donc, en fait, le point de départ, pour moi, il est vraiment de déconstruire cet héritage, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a ces milliers d'années de patriarcat qui pèsent sur notre sentiment de puissance, et en même temps, de se rendre compte, vraiment en même temps, qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, aussi une partie de nous, probablement, qui... je ne sais pas si c'est par loyauté ou par... justement, par victimisation, je ne sais pas, peut encore se faire croire que les femmes, ce n'est pas juste. En fait, pour moi, aujourd'hui... Je pense qu'on peut vraiment être dans une égalité avec les hommes. Elle est en train d'émerger, mais elle est vraiment présente. Et on n'est plus au temps de la chasse aux sorcières. On n'est plus. Donc en fait, c'est en même temps important de la reconnaître et en même temps important de voir que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense. Enfin, ouais. En tout cas, qu'on peut s'en sortir.
Oui, complètement. Et tu parlais de modèles. Toi, tu as des modèles de femmes puissantes ?
Ben, je dirais c'est beaucoup ces femmes en fait que j'ai rencontrées dans ces espaces que je trouvais puissantes dans ces moments de cercle, mais encore aujourd'hui. Enfin, là, je reviens d'une semaine entre femmes où j'entends les femmes partager leurs histoires, leurs désirs, leurs contradictions, leurs complexités. Je les trouve hyper puissantes là-dedans, en fait. Donc moi, c'est ça. Je me souviens d'ailleurs avec une de mes psys quand j'avais 25 ans, je lui disais mais j'ai pas de modèle de femme qui m'inspire autour de moi. Et je me souviens qu'elle me renvoyait un peu « Mais pourquoi tu as besoin de ces modèles ?» Enfin, je sentais que c'était un peu pathologique chez moi d'avoir besoin de ces modèles. Mais je les ai vraiment trouvés dans ces espaces de sororité, en fait, où c'est pas des modèles, c'est pas des femmes qui sont plus âgées que moi, je suis pas des mentors ou quoi, mais c'est vraiment des femmes qui, dans leur quotidien, s'assument avec courage. Et ça m'inspire, ouais.
Ouais. Et donc, trop cool. Et donc, ouais, je te demandais tout à l'heure... comment t'as fait pour écrire le livre aussi parce que beaucoup je pose plein de questions en même temps, mais sur comment t'as fait pour écrire un livre, parce que c'est vrai que moi souvent j'entends des gens et moi-même l'idée d'écrire un livre me traverse l'esprit par moment, mais comment tu fais, parce que c'est un projet entrepreneurial énorme.
Ouais.
Est-ce que toi ça s'est fait naturellement au final, parce qu'en plus là c'est quelqu'un qui est venu toquer à ta porte pour que t'en écrives un, quoi, donc
oui, c'est ça. En fait, ça s'est fait super facilement, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de faire un travail un peu scolaire. Tu vois, de mémoire, donc de, voilà, je pense que par ma formation de l'école de commerce, j'avais quand même appris un peu à structurer mes idées, à être claire dans mon propos, etc. Donc c'était vraiment un travail de bon élève scolaire qui a été assez facile à faire, surtout complètement détaché du fait qu'il allait être lu, parce que j'avais aucune conscience qu'il allait être lu. Donc en fait, moi, j'écrivais pour mon éditrice, quoi. Okay. J'écrivais pour lui rendre un manuscrit qui soit correct, qui me corresponde, qui soit clair et tout ça, mais je n'avais pas du tout conscience qu'il allait être lu. Et c'est vrai qu'il a bien marché, ce livre, et du coup, ça a été assez... étonnant, en fait, pour moi, de me rendre compte que voilà, il y avait tous ces gens qui me lisaient, qui me remerciaient. Écrire le deuxième, ça a été plus compliqué, du coup. Ouais.
Parce que tu as compris qu'il y avait des gens qui te lisaient.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et ça veut dire quoi, bien marché? Parce que moi, je ne me rends pas compte pour un livre. Parce que
ça veut dire qu'il a été... je l'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires. Mais il est sorti à 3 ans maintenant.
Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Et justement, toi, comment, alors, je peux imaginer la réponse, mais comment tu as vécu ce retour de plein de femmes, j'imagine, et peut-être quelques hommes, je sais pas, mais plein de femmes quand même.
Ouais, c'est vrai, avec un truc pareil en même temps.
comment tu as vécu ça, et est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu as reçu un flot de messages de personnes qui te partageaient aussi ce qu'elles vivaient ou ce qu'elles avaient envie de partager, comment ça s'est passé une fois la sortie du livre?
C'est vrai que ça a été ça, en fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Ça s'est fait un peu graduellement, c'est-à-dire que ça n'a pas été tout de suite dans les premiers mois. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est construit. Et je dirais encore aujourd'hui, 3 ans après, j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire « j'ai lu votre livre, merci ». Donc ça a été vraiment très touchant pour moi, très surprenant aussi. Et puis, je recevais aussi pas mal d'histoires, en fait, de témoignages. Alors moi, j'étais habituée à les entendre dans les cercles, donc je n'ai pas été surprise de ce que j'ai reçu dans les témoignages. Mais en fait, j'étais surtout surprise de voir à quel point les femmes avaient envie de se livrer sans attendre grand-chose en retour de ma part. En fait, elles avaient surtout envie de me raconter leur histoire. Comme si, mais du coup, c'est vraiment... je connais aussi l'importance de cette place, en fait, du témoin, tu vois, de celui qui est dépositaire de l'histoire. De savoir que quelqu'un connaît mon histoire, ça me soulage, en fait. J'ai pas besoin qu'on me donne un conseil ou qu'on m'explique quoi faire. Mais de savoir que quelqu'un sait ce que j'ai vécu.
Ouais.
Et c'est vraiment là-dessus que cette dynamique des cercles de femmes fonctionne. Juste de pouvoir raconter aux autres ce que j'ai vécu. Et je leur demande pas de conseils, de me dire ce qu'elles en pensent, de me dire comment elles ont fait, mais de savoir que je suis pas seule, en fait, à porter mon histoire, ça... Voilà, c'est assez thérapeutique, en fait.
Ouais, complètement. pour rester sur cette lancée éditoriale, on va dire, t'as sorti un autre livre, plus récent, pour le coup, qui s'appelle Vulnérable, avec là aussi un petit 3 en dessous, s'émerveiller d'une sensibilité retrouvée. Et il y a Anne Guéquer aussi du podcast Métamorphose qui parle d'une invitation à accueillir sa puissante fragilité. C'est beau, puissante fragilité.
Ouais. En fait, je pense que cette question, c'est toujours cette question de la puissance. Enfin, en fait, mon premier livre, il s'appelle La puissance du féminin. Il aurait pu aussi s'appeler La puissance de la vulnérabilité, d'une certaine manière. Bon, du coup, c'est toujours un peu ce même fil que je tire dans le deuxième, mais j'essaye de sortir de la question du genre, justement.
Ouais.
Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire si c'est pas la puissance de la force qui tient bon, qui met tout en œuvre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressource, en fait? Et je crois que la vulnérabilité, c'est vraiment une autre ressource qui nous amène à cet état, voilà, de puissante fragilité.
Ouais, parce que j'avais vu, je crois, sur ton site, pour le coup, que la vulnérabilité est un état émotionnel si inconfortable et dont la société ne sait que faire. C'est vrai qu'il y a les deux. À la fois, c'est inconfortable quand on n'a pas l'habitude de l'accueillir. Et je vais te poser la question, comment on peut réussir déjà à l'accueillir? Et après, comment on fait pour faire en sorte que la société sache en faire quelque chose?
Bah oui, la société, en fait, la vulnérabilité, ça fait peur. Enfin, on est vraiment, on est vraiment dans une société... viriliste qui nous vante les mérites de la force et de tenir bon, de la lutte, etc. Donc en fait, c'est vrai que la fragilité, c'est tout de suite vu comme de la faiblesse. Attends, excuse-moi, ta première question, c'était quoi? Oui, comment on fait pour l'accueillir?
Ouais, c'est ça.
Bah,
ouais.
C'est tellement inconfortable. En fait, quand je me sens vulnérable, je veux qu'une chose, c'est plus me sentir vulnérable. On est bien d'accord. Hein. Personne n'a envie de se sentir vulnérable parce que c'est tellement inconfortable. Parce que justement, dans la société dans laquelle on est, être vulnérable, ça veut dire risquer de mourir, risquer d'être méprisé, d'être moqué, d'être à terre, d'être désarmé, d'être...
isolé.
C'est hyper dangereux. Isolé, voilà, exactement. Enfin... Donc, il y a vraiment énormément de peur, en fait, à contacter cet état. Et cette peur, elle nous empêche de contacter notre vulnérabilité. Du coup, on la masque par un certain nombre d'attitudes qui tiennent la douleur à distance, qui tiennent le manque, qui tiennent la déception, qui tiennent la tristesse à distance. Et du coup, voilà, par exemple, dans des espaces... sécurisé, où on se sent en sécurité, comme dans un cercle, les femmes peuvent s'autoriser à la montrer cette vulnérabilité parce qu'elles savent que personne ne va en faire quelque chose contre elles. Et puis aussi, quand je partage ma vulnérabilité avec quelqu'un qui est capable de contacter la sienne, ça crée vraiment du lien, en fait. Ça, c'est Brené Brown qui, je pense que tout le monde connaît sa vidéo sur la plateforme TEDx, le pouvoir de la vulnérabilité. Mais Brené Brown, elle place la vulnérabilité au cœur des expériences humaines significatives. En fait, cette sociologue, elle s'est rendue compte que les gens qu'elle observait, qui étaient capables de vulnérabilité, en fait, c'était ceux qui étaient le plus capables de lien.
Ouais.
Ils sont capables de dire « je t'aime » en premier, ils sont capables de... Voilà. Et donc, il y a vraiment je sais pas comment le dire, mais en tout cas, une clé pour notre humanité d'accepter de vivre sa vulnérabilité, alors dans certains contextes, peut-être avec certaines personnes, peut-être à minima, parce que la ressentir concrètement, ça fait trop mal, mais en tout cas, de s'approcher de cette vulnérabilité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut collectivement aussi nous aider à sortir un peu de, bah voilà, de cette société dans laquelle on est.
Ouais, complètement. Et donc oui, tu disais tout à l'heure que avec ce nouveau livre, tu voulais sortir de du côté, enfin du genre pour le coup. J'avais envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui?
Ah là là,
parce que je t'ai posé tout à l'heure la question d'être une femme. Alors t'as étudié plus longuement la question de la femme.
En fait, je pense que toute cette question de vulnérabilité, justement, elle touche les hommes comme les femmes. Hein, mais je pense que c'est quand même encore plus dur pour les hommes aujourd'hui de quitter ce patriarcat. En plus, les hommes, ils sont pas mal malmenés d'une certaine manière par tous ces mouvements suite à MeToo. Enfin, voilà, comme si peut-être, enfin, hein, je sais pas, j'ai pas envie de parler au nom des hommes, j'en sais rien, mais tu peux imaginer en tout cas, j'ai eu des témoignages d'hommes qui me disaient c'est pas si facile pour nous de voir que les femmes aient envie de prendre leur place dans le monde, leur puissance, l'égalité, tout ça. Je connais énormément d'hommes qui sont pour, hein, enfin la plupart d'ailleurs, heureusement. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que c'est comme si on leur disait, ben, quand même, hein, cette place que vous avez eue pendant si longtemps, bah, va falloir la partager. Un homme face à une femme qui assume son désir, par exemple, qui s'assume, qui n'est pas dans une posture de soumission, il ne sait pas forcément comment faire, en fait. Parce que là aussi, en fait, il nous manque des modèles. En même temps, je crois que... Donc ça, c'est une réalité sociale. Et en même temps, je crois qu'il y a tellement de choses qui changent tellement vite en ce moment sur la planète. Cette conscience écologique. Je pense qu'on est vraiment poussé dans une même direction, dans une même transformation. Donc moi, je suis assez confiante dans... l'harmonie homme-femme qu'on est en train de créer, quoi. Mais je sais pas ce que ça veut dire être un homme. Peut-être toi tu peux répondre à cette question.
C'est une bonne question. Pour le coup, ça me fait penser, j'avais enregistré un épisode avec Jérémy Frérot qui avait sorti une chanson comme un homme et que je trouve assez sympa. Beaucoup, alors, j'écoute pas régulièrement Jérémy, mais cette chanson, je la trouve intéressante. Et ouais, je vais quand même essayer d'y répondre parce que tu me l'imposes, donc je vais essayer de pas l'éviter, allez. Non, mais je pense que je trouvais ça hyper, hyper intéressant de parler de vulnérabilité parce que c'est aussi accepter ça et je suis d'accord que ça chamboule beaucoup de choses, comme tu disais, tout ce qui se passe. Mais c'est intéressant c'est de la remise en question complète, en fait, de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que ça a été, effectivement. Même, tu vois, j'avais vu des trucs sur la pression du père de famille aussi. Pour le coup, je suis pas encore père de famille, mais la pression qu'un père de famille peut avoir et justement cette pression sociale et historique, comme tu as pu le dire aussi, de ne pas avoir le droit de montrer ses faiblesses. Enfin, pas avoir le droit, on a le droit. Mais en tout cas, qu'on n'est pas habitué à se laisser la possibilité de les montrer, quoi. Donc, je pense que de toute façon, c'est assumer aussi sa part de féminité pleinement. Et encore, j'aime pas dire ça, parce que tu vois, ça fait encore le lien entre féminin et masculin. Donc, pas forcément fan de ça, mais... c'est compliqué, je réponds pas franchement à la question, mais c'est compliqué.
Non, mais en même temps, il n'y a pas une réponse.
Ça dépend de chacun aussi, quoi. Donc,
bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de voir des hommes vulnérables, moi, ça m'a beaucoup fait cheminer. Et, et je pense là au documentaire de Mayua qu'elle a réalisé, là, Make Me Man. C'est vraiment, enfin moi j'ai aussi beaucoup côtoyé des cercles où il y avait des hommes, enfin du coup des cercles mixtes, hein. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, et un homme qui se montre vulnérable, je trouve que c'est un homme hyper viril, en fait, pour moi. Beaucoup plus qu'un homme qui fait semblant d'avoir le contrôle. C'est pas trop mon truc, en fait.
Mais c'est drôle. C'est drôle. C'est marrant de voir qu'effectivement... et je pense que ça va... Et j'espère que ça va évoluer comme ça. Mais de se dire qu'en fait, c'est pas parce que tu montes les muscles que t'es viril. C'est rigolo. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à changer, je pense, dans la société. Mais comme on le disait, il y a des chances que ce soit un peu en cours. ça te fait quoi de repenser à toi quand t'avais 20 ans? Et où pour le coup, tu disais que tu n'étais pas forcément très bien. Mmh. Alors, je me permets de te poser cette question, parce que moi, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps que moi, c'était il y a 3 ans. Alors, pour le coup, c'était plus récent où je n'étais pas très bien. J'avais fait de la visualisation. Mmh. Et cette visualisation, ce que j'ai visualisé, décidément, c'est arrivé la semaine dernière, en fait.
Wow.
Donc, plutôt cool, mmh. plutôt très cool. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu ressens en pensant à toi quand tu avais 20 ans et voir tout ce que tu as fait aujourd'hui?
Ouais, je suis super... je regrette pas, tu vois, tout ce parcours qui a été quand même, je trouve, difficile. Quand j'avais 20 ans, j'allais vraiment pas bien.
Mmh.
Et je me sentais tellement seule et incomprise et pas adaptée à la société dans laquelle je vivais. Enfin, donc, j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour cette jeune femme que j'étais. En même temps, je pense que j'aurais envie de la rassurer. Et je vois bien aussi comme aujourd'hui, en fait, elle revient dans ma vie. Enfin, je sais pas si c'est la femme de 20 ans ou si c'est plus jeune, mais parce que je me suis aussi beaucoup construite ces 20 dernières années, du coup, parce que je vais avoir bientôt 40 ans, de manière défensive, en fait, par rapport à cet état de mélancolie dans laquelle j'étais, tu vois, en me disant je vais me sortir de ça, je vais choisir le métier que je veux faire, je vais faire ce que je veux, etc. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être arrivée vraiment, enfin, je veux dire, tout ce que je vis dans ma vie aujourd'hui, c'est des choses que j'ai choisies, qui sont des rêves qui se réalisent, enfin, voilà. Et en même temps, il y a quand même quelque chose, un peu, d'une posture défensive par rapport à ce mal-être ou à cet état de tristesse dans laquelle j'ai été quand même beaucoup quand j'étais enfant et adolescente. Mmh. Et du coup, ouais, en ce moment, peut-être parce que justement, je vais avoir 40 ans, je m'interroge un peu sur tout ça, c'est comme si je sentais qu'il y avait des choses de ma vie d'avant que je pouvais à nouveau m'autoriser à ressentir, en fait, à recontacter, peut-être pour que ça ouvre encore plus de champs à l'intérieur, je ne sais pas trop, mais...
Mmh.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
Alors, j'arrive à comprendre si... dans le sens où tu... Enfin, si je me permets de reformuler, mais tu me diras, si tu te permets d'autoriser de... alors, je vais le dire comme ça, de rouvrir certaines portes peut-être, parce qu'aujourd'hui, tu es capable de les ouvrir et et de voir ce qu'il y a dedans et potentiellement de régler les problèmes ou pas de ce qu'il y a là-dedans. Oui,
complètement.
Ça va.
Ouais, parfait. J'ai pas bonne reformulation.
Merci. Et ce serait quoi la suite pour toi? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Parce que là, déjà, tu fais plein de choses. Est-ce que c'est continuer à aider encore plus d'hommes et de femmes et d'hommes, d'hommes et de femmes? Comment tu vois la suite des choses, en fait? Parce que je me dis, à force de vivre, et c'est ce que j'imagine encore une fois, mais je pense qu'après ces 50 minutes d'échange, c'est ce que tu dis aussi, de vivre tous ces moments où tu te rends compte que t'aides les gens, pourquoi s'arrêter? T'as envie de continuer de la même manière, continuer différemment, ou juste te laisser porter par la vie et tu verras?
En tout cas, je sens aujourd'hui que j'ai vraiment envie de gagner en épaisseur en tant que thérapeute. J'ai vraiment envie de me sentir à ma place dans cet accompagnement individuel où les gens peuvent venir vers moi et où je sens que je peux les guider, en fait, vraiment vers une transformation. C'est quelque chose...
Parce que je trouve que c'est pas encore le cas.
Ouais, je trouve que... Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se font, mais j'aimerais renforcer ça, en fait.
Mm-hmm.
Et puis, je pense qu'il y a aussi une forme de curiosité, en fait. C'est-à-dire que je me souviens très bien, j'en parle, je ne sais plus d'ailleurs si j'en parle dans mon livre ou si j'ai enlevé ce passage, mais bon, bref. En fait. quelques mois avant de rencontrer cette éditrice qui m'a proposé d'écrire mon premier bouquin, j'avais un mentor de l'ESSEC, justement, qui m'avait fait faire un tableau de vision en me disant « qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu te vois à 3 ans, à 5 ans, machin ?» Et en fait, c'était plein de belles perspectives, mais évidemment, de rencontrer cette éditrice, de mettre à écrire, ça a ouvert beaucoup d'autres choses, en fait. Mmh. Et ça m'a aussi appris que c'était bien de savoir où est-ce que j'avais envie d'aller, mais c'était bien aussi de me laisser guider et de me laisser surprendre, en fait. Et je pense que... Enfin, moi, je suis... Mon signe astrologique, c'est le poisson. Donc, je pense que j'ai une petite tendance quand même à me laisser porter. mais aussi... je pense que c'est aussi une de mes forces. Hein, mais pour répondre à ta question, j'ai envie d'approfondir ma posture de thérapeute. Et en même temps, j'ai envie vraiment de laisser la vie m'apporter la prochaine étape, quoi.
Ouais. Ouais. Trop cool. T'aurais quoi comme... alors si, ouais, je vais la sortir maintenant. T'aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour... alors, il y aurait deux choses, je pense. J'ai envie de dire pour vivre pleinement ou vivre pleinement leur plein potentiel. C'est peut-être deux questions différentes. Et ça, c'est la première. Et après, des conseils s'ils ont envie de... De commencer une thérapie ou quelque chose comme ça, enfin, comment se renseigner, comment, enfin, voilà. Encore une fois, j'aime bien faire deux, voire trois questions en une, c'est cadeau.
Alors, vivre pleinement, ouais. Je crois que, en fait, en tout cas, un outil qu'on peut utiliser, on n'a pas besoin de faire un travail thérapeutique pour ça, mais c'est vraiment de s'écouter, en fait. S'écouter, ça veut dire prendre le temps dans sa journée, dans sa semaine, de s'asseoir. C'est les Amérindiens qui disent ça, ils parlent de l'importance de l'immobilité-silence, d'être dans cette immobilité, ce silence, pour se connecter à qui on est profondément. Je ne peux pas savoir qui je suis si je suis toujours dans l'action, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre et à intégrer, pouvoir ralentir, pouvoir être dans le silence, pour savoir en fait qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Et cette chose-là, on peut presque le faire seul, d'une certaine manière. Enfin, évidemment que y a probablement plein de blocages aussi qui sont mis depuis l'enfance, qui sont des stratégies de survie, etc. Donc ça, ça demande un travail thérapeutique. Mais déjà, de s'écouter, je pense que c'est voilà, une bonne première étape. Et pour ceux qui ont envie de commencer un travail thérapeutique, ben, je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de demander autour de soi, en fait. Parce que je ne sais pas si on cherche sur Internet, on va trouver plein de choses, mais en tout cas, un travail thérapeutique, il faut que ce soit une rencontre. Et donc, il faut que le thérapeute nous convienne. Lui, en tant que personne, son outil, sa méthode aussi, mais je dirais que c'est avant tout une rencontre de personnes. Donc, bah, pouvoir voilà, demander à son ostéo, à son médecin généraliste... à sa meilleure amie, je sais pas s'ils ont des contacts en fait, et puis d'aller rencontrer les gens, vraiment de sentir en fait avec qui j'ai envie. Souvent le thérapeute il doit quand même me donner envie d'être, je vais pas dire d'être comme lui, mais en tout cas il doit m'inspirer quelque chose de mon état désiré, ce vers quoi j'ai envie de tendre, quoi, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà, je dirais.
Moi, ouais, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais?
Je crois que ce qui m'anime, c'est d'être dans le cœur. En fait, d'être... ouais, c'est ça. D'être... Je pense d'être au service de quelque chose de plus grand. Encore une fois, je vais le dire un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... je sens en tout cas que dans ces moments où je me sens au service de quelque chose de plus grand, j'ai beaucoup de joie, je me sens à ma place, ça me donne de l'énergie. Donc c'est vraiment ça, ouais, qui m'anime.
Cool. C'est bon signe pour la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose, ça fait à peu près une heure qu'on échange, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu te dis, tiens, ce serait cool d'en parler quand même?
Écoute, non, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses déjà.
Ouais. Ok, trop cool. Bon, bah, j'invite les personnes qui nous écoutent déjà à te suivre, parce que t'es quand même assez actif sur les réseaux aussi. Et puis à lire l'un de tes livres, ça peut être intéressant aussi.
Ouais, merci.
Et tu fais pas mal de conférences, d'autres podcasts aussi. Donc, voilà, bravo pour tout ça.
Et
merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était trop cool.
Ouais, merci à toi, j'étais ravie de ce moment ensemble.
C'est gentil, à très vite.
À très vite, merci. Ciao.
Merci à tous pour votre écoute. J'ai adoré ce moment d'échange avec Camille et toutes ces questions que l'on s'est posées. Alors, pour vous, c'est quoi être une femme et c'est quoi être un homme? Vous avez 4 heures. Non, je pense que ça prend un petit peu plus que 4 heures pour répondre à ces deux questions. En tout cas, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.